Le projet de révision constitutionnelle, premier des trois volets de la réforme des institutions, est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Hier, les chefs de file des groupes parlementaires de l'opposition ont profité du discours d'Emmanuel Macron à Versailles pour lancer une nouvelle salve de critiques contre cette réforme. Revue de détails de tous ces mécontentements à suivre avec Stéphane Robert. Donald Trump a nommé hier le magistrat Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, une manière d'ancrer un peu plus encore la haute cour dans le conservatisme. Pour le président américain, l'essentiel désormais est que cette nomination soit avalisée par le Sénat avant les élections de mi-mandat. En clair, tant que les Républicains sont encore majoritaires. Analyse dans le journal avec Valérie Crova. Et puis, nous nous intéresserons à cette vague de chaleur meurtrière qui, depuis quelques jours, s'abat sur l'hémisphère nord. Pas moins de 70 personnes sont mortes depuis le début du mois au Québec. Une vague de chaleur circonscrite à l'hémisphère nord. Preuve que le réchauffement climatique n'épargne pas les pays dits développés. Pourquoi ? Nous poserons la question au climatologue Jean Jouzel. Enfin, après le journal, la suite de la grande table d'été. Au menu, Maëlys.
Nous allons faire une visite radiophonique de l'exposition Couple moderne en compagnie de la commissaire Emma Lavigne, puis le portrait de la photographe cinéaste Laura Hainaut qui expose à Arles.
Ce sera à 12h45. Après les dorures du château de Versailles hier, les parlementaires sont invités à rentrer au bercail aujourd'hui, comprenez l'hémicycle de l'Assemblée nationale, pour y entamer une bataille parlementaire de plusieurs mois. Au menu, la vaste réforme institutionnelle voulue par le chef de l'État. Alors hier, dans son monologue de près d'une heure et demie, Emmanuel Macron, sans doute pour attester de ses efforts d'humilité et d'écoute, ne s'est pas vraiment avancé sur le sujet, aucune menace en particulier sur l'éventualité d'en passer par un référendum. Reste que le premier des trois volets de cette réforme, celui sur la Constitution, qui sera débattu à partir d'aujourd'hui, promet d'être enflammé. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Et parmi les nombreux sujets qui fâchent, donc, on trouve notamment la modification de la procédure parlementaire. De quoi s'agit-il ?
Oui, Emmanuel Macron veut rendre la procédure parlementaire plus rapide et plus efficace, parce qu'aujourd'hui, le vote d'une loi peut prendre plusieurs mois, et les députés déposent souvent des milliers d'amendements. Là, par exemple, il y en a 2400 à examiner, ce qui va encore une fois prendre beaucoup de temps. Et donc, cette réforme de la procédure vise d'une part à réduire la navette parlementaire à un seul examen par l'Assemblée et le Sénat, et ensuite à encadrer le droit d'amendement en faisant en sorte qu'un amendement déjà rejeté en commission ne puisse pas être redéposé et réexaminé en séance publique. Tout ça irrite les députés de l'opposition qui dénoncent une atteinte à leur fonction et à leur pouvoir de parlementaire. Pose problème également l'inscription dans la Constitution du droit à la différenciation des collectivités territoriales, avec notamment la spécificité de la Corse qui permettra aux élus corses d'adapter la réglementation sur l'île de Beauté. L'opposition dénonce là une atteinte au principe d'égalité. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment lieu à débat dans ce premier volet constitutionnel de la réforme. Pour autant, on a quand même, je vous le disais, de très nombreux amendements, notamment 600 amendements préalables à l'examen du texte en lui-même, des amendements plus ou moins farfelus. Les communistes, par exemple, veulent revenir sur le suffrage universel et faire élire le président par le Parlement. Ils veulent aussi revenir au septennat. Des députés ont même déposé un amendement qui vise à instaurer l'octennat, le mandat de 8 ans. D'autres veulent inscrire l'écriture inclusive dans la Constitution. D'autres encore militent pour la reconnaissance des langues régionales ou la reconnaissance du drapeau corse. Bref, on y trouve à peu près tout et n'importe quoi, et il faut bien le dire, beaucoup de n'importe quoi.
Et puis plus largement, Stéphane, ces centaines d'amendements que vous évoquiez à l'instant ne sont en somme qu'un premier avertissement, la première salve portée contre le gouvernement et son projet de révision des institutions, car de très nombreux autres sujets de friction émergeront lors de l'examen des deux autres volets de cette réforme, et en particulier lorsqu'il s'agira de débattre de la baisse du nombre de parlementaires, c'est-à-dire finalement de ceux-là même qui seront appelés à se prononcer.
Oui, alors ça, ces deux autres volets qui sont une loi organique et une loi ordinaire seront examinés à l'automne et on entrera là dans ce qui est véritablement le cœur de la réforme et qui, s'ils sont adoptés, vont profondément bouleverser le paysage politique. Il s'agit de la baisse d'un tiers du nombre de parlementaires. On va passer de 925 députés et sénateurs actuellement à environ 640, ce qui fait que 300 élus demain vont se retrouver au chômage. On a aussi l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Ça fait dire aux élus d'opposition qu'on va créer deux types de députés, ceux qui seront désignés par leur parti et ceux qui devront faire campagne sur le terrain pour être élus. Et il y a également la limitation des mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats consécutifs. Tout ça va faire l'objet d'âpres discussions et négociations. sachant que sans l'accord du Sénat, où la majorité reste à droite, cette réforme ne pourra pas voir le jour.
Merci Stéphane Robert. Les mauvais chiffres inattendus de la production industrielle en France, selon les données publiées aujourd'hui par l'INSEE, elle a enchaîné au mois de mai un troisième mois de recul consécutif, se contractant de 0,2%. La seule production manufacturière accuse, elle, une baisse encore plus marquée à moins 0,6%. Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé hier soir l'arrêt immédiat de la production de son usine chimique dans les Pyrénées-Atlantiques, celle-là même qui fabrique la fameuse Dépakine, décision prise après que le groupe a été accusé de rejeter des matières dangereuses à des taux astronomiques. De nouveaux mandats d'arrêt internationaux ont été lancés hier dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, notamment contre les frères Klein, ces deux djihadistes français vraisemblablement encore vivants et en Syrie qui ont revendiqué ces attaques meurtrières au nom de Daesh. Alors l'annonce de ces mandats d'arrêt a été faite hier à l'école militaire à l'occasion du troisième rendez-vous d'information sur l'enquête organisée entre les magistrats d'un côté et les victimes et familles des victimes de l'autre. Il faut dire que le dossier a considérablement grossi, près de 500 tomes contre 220 il y a 9 mois. En tout état de cause, les juges devront avoir bouclé leur investigation en septembre 2019. Quant au procès, il n'aura pas lieu avant le début de l'année 2021. Alors bien sûr, le temps de la justice n'est pas vraiment celui escompté par les familles concernées, mais c'est un temps nécessaire, comme l'explique Caroline Wasserman, avocate d'une dizaine de personnes interrogées par Florence Turm.
C'est une affaire extrêmement importante, de grande envergure, qui fait intervenir plus d'une vingtaine de personnes avec un réseau, un commando particulièrement structuré, une logistique particulièrement développée, des rôles sur différents pays de tas de gens qu'on n'a pas tous interpellés aujourd'hui. Voilà, bien sûr, c'est un procès qui va être un procès énorme, on s'y attend, et surtout, ça va être long et ça fera suite à une investigation et à un travail d'instruction extrêmement minutieux. C'est un travail de fourmi, parce que remonter des filières pareilles sur différents pays avec des organisations pareilles, ça ne peut être que très long, fastidieux, compliqué et difficile. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a par exemple la démonstration d'une justice qui fonctionne bien, de rouages huilés, d'une parfaite coopération internationale. On a le sentiment que les questions sont étudiées les unes après les autres avec de la méthode, avec notamment une technologie avancée, notamment, voyez, on a évoqué aujourd'hui les questions d'ADN et la manière dont les ADN des uns et des autres étaient croisés et autres. C'était quand même intéressant et c'est quand même la démonstration que notre justice fonctionne bien. Pour l'instant, je crois que personne ne peut se plaindre du travail que fait la justice dans cette affaire.
L'avocate Caroline Wasserman répondait à Florence Turm. Aux États-Unis, s'il est de coutume de moquer l'impulsivité et l'esprit de contradiction de Donald Trump, force est de constater que, pour cette fois du moins, le président aura fait mentir tous ses détracteurs. Après le départ à la retraite surprise du juge Kennedy de la Cour suprême, non seulement Donald Trump aura pris son temps, rarement un président avait consulté aussi largement avant de procéder à une nomination, et puis, en proposant le juge Brett Kavanaugh, il n'aura fait que confirmer le glissement à droite de la plus haute juridiction américaine, ainsi qu'il l'avait déjà initié l'an dernier, en imposant son candidat, le très conservateur Neil Gorsuch. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui est vraiment Brett Kavanaugh, que la presse américaine présente ce matin comme une créature de Washington?
Il a 53 ans. Ce diplômé de Yale a été l'assistant du juge Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite de la Cour suprême et qu'il pourrait donc remplacer. Brett Kavanaugh s'est fait connaître dans les années 90 lors des deux scandales qui ont touché Bill Clinton. C'est lui qui a mené l'enquête dans l'affaire Whitewater, qui portait sur des investissements hasardeux dans l'immobilier du couple Clinton. Il a également participé à la rédaction du rapport du procureur Kenneth Starr à propos du scandale Monica Lewinsky. En 2001, il est recruté par George W. Bush à la Maison Blanche, où il a rencontré sa femme Ashley, qui était la secrétaire particulière de l'ancien président américain. Il le nomme plus tard à la Cour d'appel de Washington, où il a passé 12 ans. Catholique pratiquant, conservateur, le juge Kavanaugh s'est opposé récemment à une décision autorisant une adolescente sans papier à se faire avorter, d'où la préoccupation des défenseurs du droit à l'avortement qui craignent que sa nomination, si elle était confirmée, ne mette en péril le droit à l'IVG. De son expérience auprès du procureur Kenneth Starr, Brett Kavanaugh a tiré la conclusion qu'un président devrait être immunisé contre tout procès civil ou criminel et même contre les enquêtes de la justice, et c'est sans doute l'une l'une des raisons qui ont conduit Donald Trump à le choisir, alors qu'il est lui-même sous le coup d'une enquête du procureur spécial Robert Mueller dans l'affaire des ingérences russes durant sa campagne électorale.
Alors cette nomination en réalité doit encore être avalisée par le Sénat, où les Républicains ne sont aujourd'hui majoritaires qu'à 51 voix contre 49. Pour autant, selon Laurence Nardine, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, que vous avez joint par téléphone, Valérie Creval, la nomination de Brett Kavanaugh ne fait guère de doute.
Je pense que dans tous les cas, elle va donner lieu à des batailles terribles au Sénat avant le vote lui-même, si vous voulez, parce que les démocrates vont être extrêmement virulents dans leur critique de ce nouveau juge. Il y a quelques inconnus, parce que certains républicains sont plutôt modérés, donc auront peut-être du mal à être convaincus. Je pense qu'au final, il est quand même relativement probable qu'il soit confirmé par le Sénat, oui. Ce serait un tournant, puisque, avec Kavanaugh, on aurait une majorité de 5 juges conservateurs sur 9, donc une majorité, hein, il resterait que 4 juges progressistes, on va dire, et donc ils auraient beaucoup plus de facilité à faire voter par la Cour suprême des décisions allant dans leur sens. Donc oui, il y a pour de nombreuses années la perspective d'une droitisation de la jurisprudence aux États-Unis. Là, on est parti pour une très très forte majorité conservatrice à la Cour suprême, avec des conséquences dans la jurisprudence de la Cour qui seront véritablement un raz-de-marée conservateur pour tous les aspects de la vie politique, sociale, pour littéralement des décennies à venir.
Laurence Nardin, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Toujours aux États-Unis, la justice fédérale a rejeté hier la demande de l'administration Trump d'autoriser la détention de longue durée d'enfants immigrants en situation irrégulière. Le gouvernement présentait cette option comme une solution à la séparation des familles de migrants. Le tribunal a lui jugé douteuse et peu convaincante la requête du département américain. En Thaïlande, 2 nouveaux enfants ont pu être évacués aujourd'hui de la grotte inondée où ils étaient coincés depuis 2 semaines. Les 3 derniers rescapés devraient à leur tour revoir la lumière du jour dans les toutes prochaines heures. Au Japon, là, les sauveteurs redoublent d'efforts malgré des chances amoindries de découvrir des survivants après les terribles inondations qui ont ravagé l'ouest du pays. Le dernier bilan s'est encore aggravé cette nuit. Il fait état d'au moins 156 morts. Et puis après les ravages des pluies torrentielles, voilà désormais que le retour du soleil et les fortes chaleurs compliquent les opérations de secours en raison notamment des risques d'insolation. Les fortes chaleurs, justement, voilà plusieurs jours maintenant qu'elles font des ravages un peu partout, qu'il s'agisse des incendies de forêt en Californie ou en Sibérie, mais aussi de la fonte des glaces accélérées en Arctique, où les températures dépassent de 20 degrés les normales saisonnières. Dans plusieurs villes du Caucase également, on a pu enregistrer ces derniers jours les températures les plus élevées depuis que les mesures existe. Et puis, au Québec, là, la canicule a fait 70 morts depuis le début du mois, selon le dernier des comptes diffusés hier par les autorités sanitaires. Une vague de chaleur extrême donc, et dont la particularité est d'être circonscrite sur l'hémisphère nord, autrement dit dans les pays dits développés, jusque-là relativement épargnés par le réchauffement climatique, ce qui ne surprend pas le climatologue Jean Jouzel, joint par téléphone par Véronique Robérotte.
Les pays développés ne sont pas exempts des conséquences du réchauffement climatique, et on le voit aussi bien au Japon, au Canada qu'aux États-Unis, à l'échelle française d'abord. Par exemple, quand on revient sur la période extrêmement orageuse du mois de mai et du début juin, eh bien, c'était assez exceptionnel. D'une certaine façon, notre climat se comporte comme on s'y attend. C'est-à-dire, on parle de dérèglement climatique à partir du moment où se superpose sur une tendance au réchauffement moyen une intensification des événements extrêmes que l'on voit par l'intensité des précipitations, mais aussi par des périodes de sécheresse très marquées, par des inondations dans d'autres régions. Donc c'est un peu ça notre climat actuellement. Alors, mais c'est une observation quand même extrêmement intéressante, plutôt perturbante. Ça montre bien la difficulté du réchauffement climatique. Et puis, je dirais que le troisième point, c'est l'idée qu'il peut y avoir des points de non-retour dans ce réchauffement climatique. Quand on parle de points de non-retour, eh bien, ce sont des événements irréversibles, comme la fonte des glaces, dont la première conséquence est l'élévation du niveau de la mer, qui s'accélère d'ailleurs depuis une vingtaine d'années. Parmi les événements aussi qui peuvent vraiment être marquants et disons des points de non-retour. Par exemple, si une forêt, y compris une forêt amazonienne, est sujette à des séries de sécheresse, disons pendant quelques années consécutives, eh bien cette forêt ne peut pas s'en remettre, et ou de la végétation dans d'autres régions.
Pour terminer, un mot de météo. Justement, la journée sera encore ensoleillée sur la plupart des régions, même si le temps se dégradera assez nettement au nord. Les nuages s'épaissiront notamment en fin de journée par la frontière belge, au risque d'apporter quelques gouttes. Les températures entre 23 et 33 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yacine Bouzard. Pour ma part, je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.